maintenant les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour, nous sommes les élèves de la terminale Bac Pro MEI au lycée des métiers Jean Jaurès à Rennes.
MEI qui signifie maintenance des équipements industriels.
Et qui est maintenant remplacé par le Bac Pro MSPC, maintenance des systèmes de production connectés.
Dans cette émission de radio, nous allons vous faire découvrir notre formation.
Et partager avec vous une partie de notre année scolaire autour du projet mis en place par nos professeurs de lettres et histoire et art appliqué, mesdames Ghislain et Pinel.
Pépé, attendez les mecs, ça nous ressemble pas ça, c'est pas la MEI, faut changer de ton là.
Comment tu veux qu'on raconte qu'on a été à l'Assemblée nationale, au centre Pompidou, qu'on a interviewé un député, des profs? C'est sérieux ça?
Bah je te montre, je vais leur expliquer notre formation aux auditeurs moi. Écoute, en MEI, on casse, on démonte, on répare et on fabrique.
Tu crois que les gens ont compris là?
De toute façon, il y aura toutes les explications bien claires dans l'émission.
Il y aura aussi le déroulé de notre projet, notre rencontre avec Morgane à Canal B.
Notre voyage à Paris, notre rencontre avec notre député rennais Frédéric Mathieu à l'Assemblée nationale.
Notre visite du centre Georges Pompidou.
Notre trajet en métro, en train.
Hey les mecs, il y a trop de blabla là, c'est bon, balancez le son.
Attends, tu veux pas dire qu'on a aussi l'interview de notre prof?
So, may we start?
Bonjour, je suis Nathéo, je suis accompagné de Théo et nous allons vous présenter le projet effectué par la classe de terminale en MEI. C'est un projet qui est organisé depuis avril 2022 par les professeurs. Nous, en tant qu'élèves, on a été prévenus en octobre pour s'investir dedans. Ce projet est la création d'une web radio au sein du lycée. Dans un premier temps, le 6 octobre, notre classe est allée visiter les locaux de la radio rennaise Canal B. Nous avons fait la rencontre de Morgane, une animatrice radio, qui nous a accompagnés tout le long de ce fabuleux projet. Je vais vous passer Théo qui va vous raconter la suite de notre projet.
Bonjour, ici Théo. Le jeudi 12 janvier 2023, nous sommes allés à Paris visiter le centre culturel Pompidou et l'Assemblée nationale afin d'apporter notre aventure à ce projet. À l'heure actuelle, notre classe perfectionne des pistes audio afin de les envoyer à Morgane pour qu'elle puisse nous faire un montage de qualité de manière à ce que notre projet soit fini. Nous tenons à remercier les professeurs, Morgane, l'animatrice radio, les classes de terminale MEI qui se sont beaucoup investies dans ce projet et en plus particulier Madame Ghislain, notre prof de français Histoire Géo qui s'est battue et a perdu beaucoup d'heures de sommeil pour ce projet incroyable.
Bonjour, je suis Aïnora. Je vais vous présenter ma formation qui est l'MEI. Nous sommes une classe de 26 élèves. On est en MEI, la maintenance des équipements industriels. On a des cours en atelier le mardi et le vendredi, pendant 4 heures. On fait de l'électricité, de la pneumatique, de l'hydraulique, de l'usinage et de la mécanique. Quand on est en bac pro, on a toujours maths, français, histoire, géo, arts appliqués, anglais, PSE, sciences. On a en plus économie-gestion de l'atelier et de l'analyse des fonctions. Quand on fait un bac pro maintenance des équipements industriels, on peut faire après le bac des BTS CRSA, électricité, automatisme et beaucoup d'autres. On peut faire aussi une mention complémentaire, soudure, électricien. On a beaucoup de possibilités de poursuite après comme travail. En tout cas, on est sûr d'avoir derrière un travail. Comme agent de maintenance, professeur, responsable de maintenance, ingénieur, technicien de maintenance et électricien.
Nous sommes 26 élèves dans la classe de MEI. Après une enquête que nous avons menée, nous constatons que les trois quarts de la classe viennent d'une troisième générale et que la majeure partie des élèves était leur premier choix dans la maintenance. Au final, après 3 ans de formation dans la MEI, la classe apprécie toujours autant la formation.
Bonjour, je m'appelle Tarek, je suis en classe de terminale MEI. Aujourd'hui, je vais vous dire, on va vous dire, moi et Noam, de ce qu'on peut faire après les études, après le bac. Si oui, vers quoi? Quel diplôme? On va aussi vous dire comment s'orienter vers un bac pro MEI.
Donc pour répondre à la question, est-ce que l'on peut poursuivre ses études après le bac? Oui. Et les différentes filières qu'on peut faire après le bac, c'est un BTS MS, donc maintenance des systèmes, un BTS CIRA, donc contrôle industriel et régulation automatique, un BTS RSA, conception et réalisation des systèmes automatiques, un MC technicien ascensoriste ou encore un MC maintenance et des installations oléo-hydrauliques et pneumatiques. Pour répondre à la question comment on s'oriente vers un bac pro MEI, pour faire un bac pro MEI maintenance des équipements industriels, il faut faire des portes ouvertes pour découvrir et avoir des explications sur la maintenance, comment ça marche, ce qu'on y fait et surtout à quoi ça va servir, ce qu'on en fait. On n'a pas besoin de faire une troisième particulière pour aller en maintenance des équipements industriels.
Et maintenant, nous allons écouter les interviews de trois élèves de la classe, Axel, Julien et Aïnora.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons interviewer un élève du lycée des métiers Jean Jaurès à propos de ses choix professionnels. Bonjour, comment t'appelles-tu ?
Bonjour, moi c'est Axel.
Quel âge as-tu ?
J'ai 17 ans depuis 2 mois.
Comment t'as découvert la maintenance des équipements industriels ?
Alors moi, c'est un peu particulier. De base, je devais aller à Bricquigny. Et en fait, ma mère, en remplissant ma fiche, elle s'est trompée. En fait, elle a mis la maintenance en deuxième vœu. Et du coup, je suis venu là un peu par hasard.
Du coup, c'était pas ton premier choix ?
De base, je voulais aller à Charles Tillon en métier de la sécurité. J'avais d'autres objectifs dans ma vie. Et tout a changé. Et on va dire que ça me plaît pas mal. Je suis resté. Mon choix est bien tombé, on va dire. Le hasard a bien fait les choses. Et je suis très content d'être en maintenance.
Ok, je vous remercie énormément. C'est un plaisir de vous parler. Et à la prochaine.
Salut Julien, comment tu vas ?
Salut Abdoulaye, moi ça va et toi ?
Tu peux me dire comment tu as découvert la MEI s'il te plaît ?
J'ai découvert la MEI en faisant un stage de 4e dans mon collège parce que je trouvais pas de voie après le brevet. Du coup j'ai pu faire un stage dans une entreprise de maintenance des équipements industriels et là ça a directement accroché.
Est-ce que c'était ton premier choix ?
Oui, c'était mon premier choix de venir au lycée Jean Jaurès dans la filière de la maintenance des équipements industriels. Et si je n'aurais pas été pris ici, je serais quand même pris dans un autre lycée où il y avait de la maintenance.
Est-ce que tu penses que tu vas continuer dans ce domaine ?
Oui, je vais continuer après le bac. Déjà, je vais faire un BTS si tout se passe bien. Et je vais continuer professionnellement dans la maintenance industrielle.
Oui, que fais-tu en dehors des cours ?
En dehors des cours, j'aime bien le bricolage. C'est ça qui m'a fait aussi aimer la maintenance, de pas tout le temps faire la même chose, de faire plein de choses différentes.
Merci, à la prochaine.
À la prochaine.
Nous sommes le mardi 17 janvier. Je me trouve en salle 304 au lycée Jean Jaurès. Je suis Madame Gesselin, professeure de lettres histoire. Et j'ai en ma compagnie aujourd'hui Aïnora. Aïnora, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours ? Oui. Comment est-ce que tu es arrivée en maintenance des équipements industriels et pourquoi ce choix ?
Bonjour, je suis en TMEI. Je vais vous expliquer du coup mon parcours. J'ai commencé au début quand j'étais à l'école, au collège, et j'avais un peu des difficultés. Du coup, le collège où j'étais, ils m'ont proposé de faire une troisième prépa métier. Et j'ai trouvé la formation que proposait le lycée Jean Jaurès à Rennes, qui était plutôt intéressante. Du coup, je suis venue en troisième PM dans ce lycée. Et on faisait plusieurs cours différents, auto, maintenance des véhicules, et moto, électricité et maintenance. Et j'ai beaucoup été intéressée par la maintenance industrielle. Du coup, j'ai commencé en seconde MEI. Enfin, j'ai commencé ma seconde en MEI. C'est la maintenance industrielle, du coup. Maintenant, je suis en terminale et vraiment, ça m'intéresse. Ça m'a vraiment intéressée et je suis super contente d'être là.
Qu'est-ce que tu préfères, justement, en maintenance industrielle ? Parce que vous étudiez différentes choses aux ateliers.
J'aime vraiment, ce que j'aime le plus, c'est vraiment l'électricité. J'aime faire des câblages et j'aime aussi la pneumatique. Après, c'est pas ce que je préfère le plus, mais vraiment ce que je préfère le plus, c'est vraiment l'électricité.
Est-ce que c'est difficile d'être la seule fille dans une classe de 27 ans ?
Ça va, des fois c'est un peu difficile, mais les garçons sont quand même gentils avec moi et ça se passe super bien. Je suis quand même contente.
Et l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux faire ?
Alors, j'aimerais bien faire un BTS, continuer mes études, soit en BTS, soit peut-être autre chose, je ne sais pas encore, mais j'aimerais poursuivre mes études. Peut-être en maintenance industrielle, ou sinon peut-être faire autre chose, électricité. Je ne sais pas vraiment encore ce que je vais faire l'année prochaine, mais en tout cas, c'est sûr que je vais continuer mes études.
Voilà. Merci à Enora.
Merci à vous aussi.
Voilà, ça c'était les interviews des élèves de la classe. Maintenant, nous allons faire un tour aux ateliers et écouter les machines.
Alors ça, c'est un bruit de vérin. Alors là, nous avons deux agents de maintenance qui sont en train de dépouiller une machine pour récupérer les bons composants. Nous allons entendre leur bruit de travail, ils sont très très impliqués dans leur boulot là. Alors, ma chère amie Aïnora, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là sur votre énorme table? Je vois pas trop ce que ça représente, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer s'il vous plaît?
Bah en fait, on sait pas vraiment c'était quoi de base la machine, mais en tout cas, on commence à démonter un peu tout et on garde juste un peu le squelette de la machine. Parce que y a des gens qui veulent en faire un établi. Parce qu'on peut monter les pieds.
Très bien, okay. C'est très, très intelligent de votre part, cela. Bah, je vous laisse dans votre tâche, alors bonne journée, bon courage. Alors là, nous sommes devant la palétique avec Julien Champion. Et moi-même, Axel Balouli, élève en terminale MUI. Alors là, vous pouvez entendre le bruit.
C'est un vérin qui fuit.
C'est un vérin qui fuit. Donc c'est qu'il y a sûrement une panne. Donc on va vous la faire fonctionner. Et je vous détaillerai à peu près toutes les opérations ou la décrivant pour vous visualiser un peu le mouvement. Alors là, je suis devant une grande cage. La politique, en fait, c'est une pince qui va venir chercher des cartons sur un tapis pour éviter que ce soit une personne de prendre des cartons et de venir se baisser et qui va venir les empiler. Et après, avec un transpalette, un chariot pour ceux qui préfèrent, ceux qui s'y connaissent pas trop, vont pouvoir venir prendre la palette et emmener les cartons, faire des chargements de camions ou emmener ça au stock.
Ah, la machine est en train de baisser les cartons sur le morceau de palette. Ça sert en fait à empiler les cartons pour que ça soit rangé en quinconce pour après filmer par exemple les cartons comme sur une palette, des sacs d'enduit ou toute autre chose qui peut être stocké sur une palette.
Est-ce que tu peux dire mon cher ami Julien ce qui sert à lever le bras?
Ce qui sert à lever le bras, c'est un arbre avec une crémaillère et un moteur. En fait, ça permet de lever et baisser les cartons sur un axe. Et là, sur l'autre axe, c'est pareil, c'est un vérin avec une tige qui transporte tout l'ensemble.
Et est-ce que tu peux expliquer ce que moi je fais, ce que toi tu vas faire là en poussant le carton du coup?
Là, je vais pousser à la main au début le carton pour que ça soit capté par les capteurs, pour après que ça va sur le tapis roulant. Là, je viens de pousser le carton sur le tapis. Là, mon cher ami Axel... Il est en train de faire fonctionner la machine. Hop. Il vient de faire avancer le carton. Je vais en mettre un deuxième de carton sur le tapis. Sur le tapis roulant. Hop là. Là, il part au tapis roulant. Il est sur le tapis roulant. Et maintenant, on va avancer avec un vérin pour approcher de la pince. Maintenant, les cartons sont approchés par la pince. Maintenant, la pince peut descendre pour récupérer les deux cartons.
Ce qu'il faut surtout expliquer, mon cher ami Julien, c'est que dans l'électricité, tout marche quand même, surtout par capteur aujourd'hui. Une machine va facilement être automatisée par un automate, bien évidemment, mais aussi par un capteur. Là, depuis tout à l'heure, nous arrivons à faire fonctionner cette machine car la machine va capter tout ce qui est capteur et va envoyer ça à l'automate et va faire fonctionner la machine.
C'est ça, il a raison. Au moins, ça permet après à la machine de fonctionner toute seule en mode automatique, alors que là, nous sommes actuellement en mode manuel. Les cartons, lors de la deuxième hauteur, une hauteur sur deux, en fait, ils font 90 degrés, en fait, pour être empilés... pas dans le même sens pour que ça soit plus stable lors du transport de la palette. C'est bon, nous avons nos 4 cartons sur la palette. La machine fonctionne très bien.
Tout est ok, nous pouvons venir ensuite avec nos transpalettes et emmener, comme je vous ai dit au début, emmener nos cartons dans le camion ou dans le stockage, ou comme mon cher ami Julien a dit, nous allons pouvoir venir filmer nos cartons avec d'autres machines que nous avons à côté.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Alain Le Cardinal, j'ai 54 ans, je suis enseignant au lycée professionnel de Jean Jaurès à Rennes en maintenance industrielle.
On va vous poser quelques questions. Déjà, par où tout a commencé cette passion pour la maintenance ?
Donc j'effectuais un stage quand j'étais en BEP en électricité et les tuteurs m'ont fait découvrir les autres domaines, la mécanique et la soudure, et j'ai trouvé ça très intéressant.
Quel a été votre parcours de scolarité pour être enseignant ?
Donc après la troisième, j'ai fait un CAP BEP électricien. Ensuite, j'ai fait une formation complémentaire en automate programmable. Après, j'ai fait un bac F3 électromécanique et ensuite, j'ai fait un BTS électrotechnique.
Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le rôle d'enseignement ?
Alors, j'ai déjà une passion pour encadrer les jeunes dans le sport d'abord, au tennis, au football et au badminton. Et j'ai postulé pour faire des remplacements en enseignement. Et donc, j'ai eu un poste et puis ça m'a plu.
Et j'aimerais savoir aussi, cela fait combien de temps que vous enseignez ?
Donc, j'ai commencé en 1993, donc ça fait exactement 29 ans que j'enseigne.
Qu'est-ce qui vous a motivé à rester enseignant aussi longtemps ?
Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile. Certaines années sont très compliquées, mais ce qui me passionne, c'est surtout qu'on a toujours parmi ces élèves des élèves très intéressés et qui nous permettent de me motiver.
Mis à part la maintenance, quelle autre profession aurez-vous choisi ?
Alors, j'ai fait mon service militaire dans la gendarmerie et j'avais très envie de rentrer dans la gendarmerie. Et comme j'étais pris comme enseignant, je suis resté dans l'enseignement.
Comment voyez-vous les pannes ? Quelle analyse faites-vous pour résoudre le plus simplement possible, quoi ?
Alors les pannes, c'est d'abord de la logique. C'est comme en maths, hein. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Moi, j'ai de la logique et puis après, c'est surtout de l'expérience.
Quelles sont vos relations avec les élèves ?
Je pense qu'elles sont relativement bonnes. Les élèves reviennent me voir après la scolarité. Je n'ai pas trop de soucis avec eux.
D'accord, merci beaucoup. L'interview a été réalisée par Mathis
et Valdic en classe de Terminal MEI au lycée Jean Jaurès.
À présent, nous vous proposons d'écouter l'interview de Madame Leroux et l'un des souvenirs de stage d'Emmanuel.
Bonjour Madame Leroux, est-ce que vous pouvez présenter votre poste de fonction au lycée Jean Jaurès ?
Bien sûr. Donc bonjour, je suis Madame Leroux, je suis assistante technique du directeur des formations au sein du lycée Jean Jaurès. Ma première fonction donc va être d'organiser et de suivre les stages en milieu professionnel, donc appelés les PFMP, dans tout le lycée, donc en allant des troisième professionnel jusqu'au niveau ingénieur en horlogerie. D'assister également dans ses tâches Monsieur Joss, hein, directeur des formations. Et j'ai également, dans le cadre du lycée, une fonction de référente au niveau du décrochage scolaire, hein, et également une fonction de référente au niveau de Erasmus pour tout ce qui est bourse dans le cadre des pays dans l'Union européenne.
Bonjour, je m'appelle Mango Soadji Emmanuel, je suis une formation en maintenance industrielle au lycée Jean Jaurès à Rennes.
Là, je vais vous raconter une anecdote de mon stage. Dans ma formation, il est obligatoire de faire 22 semaines de stage en 3 ans. Et pour pouvoir faire mes 22 semaines de stage, j'ai dû chercher sur Internet, appeler des entreprises, plusieurs entreprises, ce qui n'est pas facile. J'ai dû, après de nombreux appels et nombreuses recherches, j'ai pu constituer une liste d'entreprises qui acceptaient de prendre des stagiaires avec leur mail à côté pour pouvoir leur envoyer mon CV et ma lettre de motivation. D'autres entreprises répondent lorsque j'envoie mon CV et ma lettre de motivation. D'autres ne répondent carrément pas. D'autres, des fois, on reçoit des réponses négatives. Et après plusieurs envois de lettre de motivation CV, il y a finalement une entreprise qui m'a répondu positivement, qui acceptait de me prendre. C'était une entreprise à Dinan. J'ai dû aller les rencontrer là-bas à Dinan pour pouvoir leur faire signer ma liste de convention de stage. Oui, ma convention de stage. Pour pouvoir faire le dossier pour pouvoir administrativement entrer dans l'entreprise et pouvoir être assuré. Comment je peux dire, pour pouvoir dire en fait, en parenthèse, que, on va dire, que je suis allé en stage et que je suis toujours dans le cadre scolaire, dans ma formation. Et lorsque je suis allé, ils m'ont aussi fait la présentation et m'ont montré un peu l'entreprise. C'était super grand. C'était bien, c'était une entreprise qui faisait de la soudure, de la maintenance et un peu de chaudronnerie. J'ai pu, qu'on appelle ça, lors de mon stage, j'ai fait une grosse partie de mon temps en maintenance. Dans la maintenance, j'ai pu voir à peu près comment ça se passait sur le terrain, les machines et autres, comment ils faisaient la réparation des machines. Dans mon entreprise, on se déplaçait beaucoup. Des fois, on allait proche de Rennes, des fois, on allait à Bru. On se déplaçait beaucoup. Ça m'a fait bien connaître la région des Côtes d'Armor, en tout cas. Et j'ai beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup appris. Certaines choses, des fois, qu'on ne connaissait pas à l'école. D'autres, certaines choses que les profs ne nous avaient pas dit, j'ai pu les apprendre au stage. Aussi, j'ai aussi fait un peu de la chaudronnerie. C'est là-bas aussi que j'ai appris à souder. Aussi à pouvoir manier certaines machines, comme la découpeuse, pour découper le métal. Et plein d'autres choses aussi. Oui, après mon stage, j'ai pu recevoir quelques petits billets. C'est un petit peu le bien d'aller en stage. Mais en tout cas, le plus gros en stage, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut beaucoup plus apprendre sur qu'on appelle ça de notre formation, être véritablement dans le cadre de notre formation et pouvoir nous améliorer. Voilà.
Merci Emmanuel.
Bonjour, je m'appelle John. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Eddy et Elhabib, qui vont nous raconter leur passion.
Notre amour est plus fort que la haine. Je vis pour toi, ma chérie. N'écoute pas les gens dit. Le bonheur n'est pas toujours chez les voisins.
Eddy a 20 ans et Elhabib a 18 ans. Leurs noms d'artistes sont EDM et IEDMC. Tous les deux font du rap et sont élèves dans notre classe.
Je viens ici pour vous poser quelques questions à vous, Monsieur Eddy et Monsieur Elhabib. Première question, comment avez-vous commencé le rap et quand ?
Bonjour d'abord. J'ai commencé le rap en écoutant des artistes, mes artistes préférés. Parce que tout d'abord, tout petit, je restais à l'écart des autres. C'est parce que j'étais un peu timide. C'est grâce à ça que j'ai commencé à écouter le rap pour me réconforter. Après, c'est ça.
Et vous, Elhabib ?
J'ai commencé le rap à cause d'un ami. Il m'a influencé à rentrer dans le rap. Du coup, je me suis balancé là-dedans.
Pourquoi le rap ?
Ah, très belle question. Pourquoi le rap ? Parce que le rap, dans le rap, il n'y a pas juste chanter ou bien écrire des paroles, non. Le rap, normalement, c'est éduquer et dénoncer quelque chose, bien dénoncer des trucs qui se passent partout dans le monde, comme l'injustice, le racisme. Donc, c'est un peu ça, dans les cités ou pas. J'ai un peu connu la rue, donc je sais qu'est-ce que ça signifie. Donc c'est ça. Et j'ai choisi le rap pour dénoncer certains trucs qui se passent dans la cité et pour interpeller la jeunesse Donc c'est ça.
Et vous et la Bible ?
Bah le rap, je fais ça pour mon plaisir, mais autrement je fais ça pour envoyer des messages. Et...
Oui. Quel est votre style de musique ?
Voilà. Bah mon style de musique c'est plus afro beat. Parce que j'ai des origines africaines, donc j'essaie un peu de mélanger entre la musique africaine et la musique française. Et c'est ça qu'on appelle afro et afrobeat. Donc c'est le mélange de tous les deux et ça sonne bien aussi. Les gens kiffent. Donc c'est ça. Je parle la langue maternelle, c'est le français bien sûr. Et j'ai des dialectes aussi. Je parle donc j'essaie un peu de mélanger dans la musique pour attirer des gens, pour conseiller aussi des Africains et des Français. C'est ça.
Et vous, Elhabib, quel est votre style ?
Le style de musique, c'est le rap. J'aime bien mélanger le rap français et le rap maoré, vu que dans mon pays, il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Du coup, je mélange comme ça, ils comprennent.
Quel est votre objectif ?
Ah, très belle question. Toujours des belles questions, monsieur le journaliste. Là vous êtes préparé. Hein. Là,
ah, exactement.
Mon objectif dans le rap, je viens de le dire là. C'est interpeller la jeunesse dans tout ce qui se passe. Et bien sûr, tous les rappeurs, tous les jeunes rappeurs, on rêve toujours un jour de percer. Quand je parle de percer, je ne ferai pas ça, mon travail pour gagner la thune ou pas. Je dis de percer pour aider les autres, c'est un peu ça. Donc je rêve toujours de percer. Et après, c'est d'interpeller la jeunesse dans les endroits bizarres, dans la cité. Donc c'est un peu ça.
Alors, comment vous vous inspirez pour vos textes ?
Moi, l'inspiration, ça se passe... ça dépend, hein, ça dépend. Je m'inspire plus quand je suis tout seul. Et tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Ouais, des guerres, par exemple la guerre en Ukraine, la crise de Covid. Donc du coup, ça m'inspire. Et des inégalités, donc ça m'inspire aussi. La société française, dans tout ce qui se passe dans le monde, ça m'inspire pour écrire des thèses, pour conseiller et pour dénoncer aussi la violence, la politique de Macron ou bien... Donc c'est un peu ça.
Bon merci à vous, en tout cas, c'est une très belle interview.
Merci à vous.
Au revoir. Je vous propose d'écouter un morceau d'EDM, ça s'appelle Problema, et c'est tout de suite sur Canal B.
Notre amour est plus fort que la haine. Je vis pour toi ma chérie. Ne coupe pas les gens dits. Le bonheur n'est pas toujours chez le voisin. Dans la cité, y'a que des zinzins qui partent des magasins. J'ai tout mis chez le voisin d'à côté. On n'y croit plus, on n'y pense plus. Qu'est-ce que tu me parles, ta mère là Rien à faire, on sèche les cours, on fait la course sur les crosses. Je croque ma vie dans les grottes, rien à faire. Ça doit rentrer, ça doit sortir. C'est moi le coq, EDM King, feuille. Problema, is okay. Motema, nananga, problema, is okay. Motema, nananga, problema. Is okay. Motema, nananga, problema, is okay. Motema, nananga,
Vous l'attendez, dis-la pas sommeil. C'est parce que le frérot il a pas d'oseille. Et la fimbi raconte avec du bif. Et pourtant on n'a pas oublié la mif. J'ai quitté le ref de la cité. Tout ça pour avoir la possibilité. Et tout ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Et si tu me crois pas, t'as qu'à quitter. Frérot, si t'es pas content, faut décaler. T'as bien choisi mon gamin, maintenant faut assumer. La règle te fait que du sel. Et moi, tu me dis, moi ça me fait mal. Et dans tout ce cas-là, c'est pas anormal. Pote, s'il te plaît, recommence à zéro.
Problema, is ok. Motema, nananga, problema, is ok. Motema, nananga, problema, is ok. Motema, nananga, problema, is ok. Motema, nananga,
problema, is ok. Motema, nananga, problema, is ok. Motema.
C'était EDM, jeune rappeur rennais prometteur, et son titre Problema sur Canal B dans l'émission des terminales Bac Pro MEI du lycée Jean Jaurès.
Canal B, radio curieuse.
Il est temps de vous faire entendre à présent le cœur de notre projet, notre voyage à Paris, où nous avons visité l'Assemblée nationale et le Centre Pompidou.
Salut tout le monde, c'est Axel Balouli de la terminale MEI. Là, nous sommes à la gare, il est actuellement 7h30 et nous attendons le départ du bus pour direction Paris. Madame Gislain, on a une question à vous poser. Comment était le trajet dans le train avec les élèves?
Très bien, tout s'est très bien passé. Hein. Je suis avec Madame Pinel, un professeur d'art appliqué, Madame Gislain, professeur de lettres histoire. Tout s'est très bien passé, les élèves étaient très calmes. Nous sommes là sur le parvis de la gare Montparnasse. Il bruine un tout petit peu, mais le ciel semble finalement s'ouvrir. On a un peu de chance. On a l'étiquette métro et là, on va se diriger
vers le centre Georges Pompidou. Et puis bah, on espère que tout va bien se passer là-bas.
Très bien. Et bah, moi, je vous reprends dès qu'on est arrivé à Pompidou et je vous ferai une visite guidée du musée une fois qu'on sera sur place. Bon, là, on est en pleine marche dans le centre de Paris, on peut l'entendre au bruit et c'est assez bruyant. Là, on est dans une petite rue, donc c'est un peu moins bruyant que tout de suite. Mais là, on est en train de chercher du coup le musée Pompidou. On devrait y arriver dans 2-3 petites minutes. C'est un peu dur de se repérer dans Rennes parce que bah, c'est vachement grand. À la sortie du métro,
J'ai dit quoi ?
T'as dit Rennes.
Dans Paris, c'est assez dur de se repérer parce qu'il y a des sorties partout, le métro est vachement grand, la gare est vachement grande. Mais ça, on a réussi à sortir. Et là, du coup, on est en pleine recherche du centre Pompidou. Et dans 2-3 minutes, normalement, je devrais vous retrouver pour la visite du musée. Là, je suis avec mon collègue Ryan.
Bonjour.
C'est celui qui va nous accompagner dans la visite du musée Pompidou. Là, on vient d'arriver devant, on vient de passer les portiques. Là, on arrive dans un petit moulinet, là. Et après, on va partir dans le musée. Je pense qu'il va falloir s'enregistrer avant. Alors là, on a un guide qui nous dit de passer par là. Là, nickel. Donc là, on va rentrer. Et je pense qu'il va falloir passer au guichet avant pour se présenter. Et vu qu'on a une petite visite, à mon avis, on va devoir aller retrouver le guide. Du coup, on retourne après avec Ryan pour la suite de la visite. Bon, là, il est 10h45, je suis en compagnie de Jeanne Bozon, élève aussi en terminale MUI.
Bonjour, c'est moi.
Du coup, là, on vient de passer les portiques de sécurité. Bon, là, du coup, il est 11h03. On était avec la guide qui nous a expliqué un peu le bâtiment Pompidou, CTO. Elle nous a posé un peu de questions. Et du coup, donc là, on part... à la galerie 1, on va commencer les visites. On vient de sortir dehors là, sur une petite terrasse. On a vu sur une très très grande partie de Paris. C'est assez beau parce que du coup on a vu sur tous les monuments, la tour Eiffel, la tour Montparnasse où on est arrivé tout à l'heure en sortant de la gare.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Et là, du coup, on rentre dans une pièce, dans le Musée national d'art moderne. Là, on va voir pas mal d'œuvres. Il y a pas mal de sculptures ici. Bon, là du coup, on vient de descendre de l'étage moderne. On vient de descendre de un étage contemporain qui est un art un petit peu plus récent, qui est un peu plus proche de notre époque. On a vu le bleu clin aussi. Et si on veut se le procurer, il faut payer les droits d'auteur comme une musique.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris.
Aujourd'hui, nous sommes avec
Bonjour, je m'appelle Isabella Sant'Angelo, je suis historienne de l'art, conférencière et animatrice au Centre Pompidou depuis un an.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier et surtout pourquoi le musée Georges Pompidou?
Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que j'aime l'histoire de l'art. Être historienne de l'art, ça peut dire être plusieurs choses. En fait, c'est un travail qui peut bien être complémentaire avec un autre travail que j'ai fait, c'est d'être enseignante d'art. En langue italienne, notamment parce que je suis italienne, mais j'ai toujours été, quand j'ai travaillé en Italie, plutôt attachée des conservations, c'est-à-dire la partie recherche. Et j'aime beaucoup les métiers des conférenciers parce que, comme je vous disais, c'est complémentaire, ça permet d'être en contact avec le public. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes, enfants, jeunes adultes comme vous. Et j'aime beaucoup travailler au Centre Pompidou parce que ma partie préférée de l'art, c'est l'art moderne et contemporain. Donc, j'ai choisi, dans notre parcours des visites aujourd'hui, des œuvres qui pour moi sont emblématiques, qui nous montrent un peu les changements, les transformations de l'art dans notre époque.
Et si vous avez une œuvre d'art à choisir, ce serait laquelle?
Ce serait celle-là. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu penses de cette œuvre, toi?
Je la trouve assez sympa parce que...
On est dans quelle œuvre déjà?
Là, on est dans une œuvre, dans une grande salle. On a des grands murs remplis de feuilles. Avec un tout petit poumon accroché.
Et le poumon, c'est un métal.
Ouais,
un métal. Est-ce que tu te rappelles le nom de l'artiste?
Non.
Benone, Giuseppe Benone. Est-ce que tu te rappelles le nom de l'œuvre d'art?
C'est la respiration.
Respirer l'ombre.
L'ombre.
Est-ce que comment tu peux définir cette œuvre d'art? Sculpture? Peinture?
Non, c'est de la sculpture.
Après,
c'est une peinture aussi, si on la regarde d'un certain angle. Si on prend juste le carré ici, on va voir une certaine peinture. On pourrait limite même mettre des baguettes en bois et ça deviendrait une peinture qu'on pourrait accrocher au mur.
Pourquoi pas? Mais comme on est dans cette œuvre d'art, il faut bien parler aussi d'une installation. Tout ce que tu as dit, c'est très bien. Il faut juste rajouter une information. L'œuvre d'art nous contient, entre guillemets, donc c'est une installation. Qu'est-ce que tu te rappelleras de cette visite?
Déjà, il faut se rappeler que à différentes époques, on va trouver différents styles d'art. Mm-hmm. C'est-à-dire, une personne qui s'y connaît un peu en art, on pourrait le mettre dans une pièce avec des tableaux de chaque époque et il pourrait se rappeler que c'est du contemporain, du moderne. J'ai remarqué aussi que le moderne, ça va surtout être des tableaux. Il y a un petit peu de sculpture, mais c'est un peu moins. Et quand on est passé au contemporain, du coup, on est beaucoup sur la sculpture, le recyclage d'objets qu'on va modifier ou sculpter.
Très bien, très très bien.
Et vous, comment avez-vous trouvé déjà notre groupe et est-ce qu'on vous a fait une bonne impression?
Très très bonne impression. Très très bonne impression, j'espère que vous allez revenir. Vous étiez toujours à l'écoute, toujours avec l'envie de participer. Donc je vous donne rendez-vous une prochaine fois ici.
Très bien, nous ça nous va, on sera ravis de revenir vous voir.
Bonjour, c'est Nathanaël Rutel-Géry en terminale MEI. Le Centre Pompidou est la première collection d'art moderne et contemporain d'Europe. C'est l'un des plus grands et plus hauts monuments de Paris, qui a été ouvert le 31 janvier 1977. Les architectes sont Richard Rogers et Renzo Piano. Le centre se situe dans le 4e arrondissement.
Le centre a deux salles de cinéma, une salle de concert, une bibliothèque, une zone pour les enfants. Il y a 6 étages en tout, dont 2 qui sont spécialisés pour le musée. Il mesure 42 mètres de haut et il a une surface de 103 305 mètres carrés, dont 45 000 mètres carrés accessibles au public.
Bonjour, vous êtes avec Aenora. Il est 14h30. Nous sommes dans le bâtiment de l'Assemblée nationale. Je vais vous parler un peu de l'historique, de quand il a été construit et un peu comment il est. Qu'est-ce qui se passe ici, le rôle des députés. Alors, le bâtiment de l'Assemblée nationale a été construit entre 1722 et 1728. L'Assemblée nationale a été créée le 4 octobre 1958. L'Assemblée nationale est au cœur de notre démocratie. Elle forme avec le Sénat le pouvoir législatif, dont la mission est de faire la loi et de contrôler le gouvernement. Elle est composée de 577 députés de la 16e législature qui votent des lois.
Bonjour, je m'appelle Salomon Visa et aujourd'hui, nous allons interviewer notre député, donc Frédéric Mathieu, membre de l'Assemblée nationale. C'est son premier mandat à l'Assemblée nationale. Il est le député de la première circonscription de Rennes et fait partie de la commission des forces armées. Et nous vous laissons écouter son interview. Merci.
Si, j'espère que ça va vous intéresser. Vous arrivez aujourd'hui alors qu'il y a un débat à l'Assemblée nationale. Il y a des niches parlementaires, ce qu'on appelle des niches parlementaires. Donc là, il y a un parti en particulier qui s'appelle le Rassemblement National qui est en train de présenter ses projets de loi. Je ne sais pas s'il est prévu. Il est prévu que vous alliez en tribune à un moment ?
Oui.
D'accord ?
Ok.
Donc, vous allez avoir une petite idée rapide de ce qu'est le débat parlementaire. Est-ce que vous avez des questions éventuellement qu'on en profite, parce que là je ne vais pas parler tout seul, mais peut-être que vous avez des interrogations sur un petit peu plus sur le lieu, sur comment ça fonctionne aussi. Je sais que vous avez une visite qui normalement doit être très complète parce que les agents qui font les visites sont très habitués et connaissent parfaitement l'institution, mais profitez-en si vous voulez qu'on discute. Et un député n'est pas un super élu local. Le député, il est là. Bah, pour venir voter la loi, pour venir contrôler le fonctionnement du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. Après, sur la circonscription, c'est vrai qu'il peut y avoir... Le député peut essayer de discuter avec les élus locaux qui ont un pouvoir d'action, avec les autorités de l'État également qui ont des pouvoirs d'action pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. Bon, récemment, par exemple, je me suis impliqué dans le fait que vous avez peut-être vu ça dans les journaux, vous avez peut-être entendu parler. Il y a des enfants de familles étrangères qui vivent dans la rue. Il y a des jeunes de votre âge ou beaucoup plus jeunes, même des enfants qui sont en maternelle ou en primaire, qui arrivent le matin, ils ont dormi dans la rue, donc ils n'ont pas la même enfance que les autres. Moi, je suis intervenu avec d'autres députés qui sont élus à Rennes pour qu'on puisse mettre ces enfants à l'abri, qu'ils aient une scolarité normale et qu'ils aient les mêmes chances que les autres. Ça, c'est un exemple. Je suis en train de travailler aujourd'hui, par exemple, sur la question du trafic de drogue aussi, en ZUP-Sud, qui pourrit la vie des gens, véritablement. Donc là, le problème est extrêmement délicat, mais on essaye de trouver des solutions. Je vais essayer d'aller voir dans des endroits où le trafic d'héroïne a explosé, le trafic de crack également, qui sont des drogues extrêmement dangereuses. Comment ça a pu être réglé, et puis essayer d'avoir des échanges comme ça dans des endroits où le problème soit a été réglé, soit a été contenu, pour essayer de voir ce qu'on peut faire à Rennes. Voilà, c'est des exemples que je peux vous donner comme ça. Je sais pas, j'espère avoir répondu à votre question. Oui. Député, c'est pas un métier, c'est un mandat électif. J'ai envie de dire, la seule qualification qu'il faut, c'est le sens des responsabilités, c'est avoir des convictions bien trempées. Voilà, moi je suis un élu de gauche, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la gauche ou la droite, je suis à la France Insoumise, je suis élu de la France Insoumise. La principale qualification que j'ai, c'est d'avoir la conviction qu'il faut du progrès social, qu'on doit vivre dans une société qui est plus juste, qu'aujourd'hui on a des problèmes en France qui sont des problèmes d'augmentation de la pauvreté, qu'il va falloir combattre par une meilleure répartition des richesses, des problèmes de racisme aussi, qu'il va falloir combattre en remettant aussi l'être humain au centre de nos préoccupations et en expliquant ce que c'est que faire société tous ensemble, etc. Les problèmes écologiques, je pense que ce sont des choses qui ne vous échappent pas. Et de dire que la santé, l'environnement, ça passe avant les profits de quelques-uns et que la nature, on ne la détruit pas pour s'en mettre plein les poches. Ça appartient, c'est l'avenir qui nous appartient, qui vous appartient, vous, en tant que jeune, qui appartiendra aussi à vos enfants et qu'on doit en prendre soin. Donc voilà les principes aussi qu'il faut avoir, à mon sens, pour moi, dans ma famille politique, à cœur, pour pouvoir être un bon député. Et puis, l'énergie aussi, parce que c'est long. Moi, j'ai eu des semaines à 60-70 heures par semaine, je peux te dire. Que...
Oui, moi, d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que pour un...
Allez, il était le premier, toi, le deuxième.
Est-ce que vous avez tous le même salaire ou il n'y a pas de salaire?
Oui, non. C'est pas un salaire, c'est une indemnité, mais bon, c'est pareil, c'est le même principe. On a tous le même salaire, sauf la présidente de l'Assemblée nationale et les vice-présidents et les questeurs. Alors les questeurs, en fait, ce sont trois députés qui sont élus pour s'occuper de l'administration de l'Assemblée nationale, pour diriger l'administration. Donc ils dirigent les services, ils s'occupent des finances, de la gestion des ressources humaines, du patrimoine, la gestion tout simplement des bâtiments, parce qu'il faut les entretenir. Vous voyez, c'est quelque chose qui est ancien et qui est... Il y a beaucoup par exemple d'œuvres d'art, donc tout ça, ça doit être entretenu. Donc eux, vu qu'ils ont des fonctions en plus et des charges en plus, ils gagnent un peu plus. Mais alors, je ne sais pas combien. Je ne m'y suis jamais intéressé. Merci pour la question, je vais essayer de vérifier pour voir.
Donc du coup, moi, c'était pour savoir si les députés, là, ils passent la plupart de leur temps à l'Assemblée nationale ou quand même plus souvent dans leur bureau.
C'est une excellente question. En fait, c'est très, très partagé. Il y a des députés... il y a des députés... Je les balancerai pas, même si j'ai très envie, qu'on voit assez peu ici. Alors que, normalement, quand il y a des séances, quand on vote la loi, j'ai envie de dire, notre premier devoir, c'est d'être ici. On ne peut pas être ici tout le temps, clairement. Pour des raisons d'emploi du temps, parce qu'il y a aussi des rencontres localement qu'on peut faire. Pour des raisons aussi de fatigue, tout simplement. Je disais tout à l'heure, moi j'ai été co-responsable pour la France Insoumise sur un très gros projet de loi. C'est en général l'un des plus gros projets de loi qu'on a chaque année. C'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc tout ce qui est budget de sécurité sociale, que ce soit le handicap, la santé, l'autonomie, chômage, retraite, etc. Ça passe dans ce budget. Pendant 2 mois, j'ai été à 60-70 heures de travail par semaine et j'étais là du lundi au vendredi. Donc, je le dis, début novembre, les 15 premiers jours de novembre, j'ai levé le pied, j'étais un petit peu plus en circonscription parce que j'étais complètement crevé, il fallait que je récupère. Donc, on ne peut pas être tout le temps, ici. Donc, il faut se partager entre les deux. Et puis, il y en a qui sont beaucoup ici. Moi, je suis beaucoup ici, clairement. Il faut que je rééquilibre un petit peu aussi parce que j'ai beaucoup de monde à voir en circonscription. Mais ça dépend des députés. Il y en a vraiment, ils se comportent un peu. Je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas un super élu local. Il y en a qui se comportent un peu comme des élus locaux. Donc ils passent tout leur temps à l'Assemblée et puis on les voit une fois de temps en temps ici. Voilà. Merci un peu. J'ai des noms, mais je les donnerai pas.
Ils ne sont pas obligés de venir ici tous les jours.
Il n'y a aucune obligation. Le juge de paix, si on peut dire, c'est le citoyen, la citoyenne, l'électeur. C'est à vous de voir si vous estimez que votre député bosse bien ou non, tout simplement. Donc il y a une obligation. On est ventilé dans des commissions. Voilà, par exemple, moi je suis en commission de la Défense nationale et des Forces armées, et on a des réunions de commission tous les mercredis matin. On est obligé d'être dans les réunions de commission. On peut s'abstenter, mais il faut donner une bonne raison. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez sur la réforme des lycées pro?
La réforme des lycées professionnels. Alors moi je ne suis pas un grand spécialiste en ce qui concerne les lycées professionnels, je suis désolé. Par contre j'ai vu un petit peu la réforme. Moi déjà il y a. Alors, en ce qui concerne les lycées professionnels, on est un petit peu sur une ligne de crête. C'est-à-dire que d'un côté, il faut une insertion professionnelle, puisque vous avez un diplôme à but professionnel qui est juste derrière. Mais de l'autre côté, il faut pouvoir vous donner des savoirs et des savoir-faire fondamentaux qui font que vous n'êtes pas spécialisé uniquement. Notamment vers une boîte en particulier. Vous allez me dire pourquoi je dis ça. On a connu une époque de la formation professionnelle, par exemple la génération de mon père, qui est née en 1945, où la formation professionnelle était beaucoup faite par les boîtes elles-mêmes. Lui, il a commencé à bosser à Citroën, la formation professionnelle était faite par Citroën. Et donc, vous étiez un ouvrier spécialisé Citroën. Et si vous vouliez aller ailleurs, c'était un petit peu compliqué. Vous étiez un petit peu prisonnier. Donc le lycée professionnel, c'est un peu plus ouvert dans les années qui ont suivi, notamment après mai 68, etc. Et a commencé à donner des savoirs généraux pour que, par exemple, en tant que mécanicien industriel, vous puissiez toucher à tout et être libre d'aller où vous voulez. Aujourd'hui, la réforme du lycée professionnel, l'impression, c'est qu'elle dévalorise... Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'elle dévalorise le savoir professionnel, justement, en revenant un petit peu sur cette hyper-spécialisation qui existait du temps de mon père. Il y a une forme de régression. Après, je vous dis que je ne suis pas un spécialiste de la question. Donc, je mets toutes les précautions sur mon avis, mais le peu d'éléments que j'ai vus, moi, je suis assez opposé à cette réforme du lycée professionnel. Je pense qu'il faut continuer à vous donner aussi des savoirs fondamentaux qu'on trouve dans les lycées généraux, parce que vous avez vocation à être des citoyennes et des citoyens responsables dans le monde où on vit. Donc, on ne peut pas uniquement vous destiner à faire marcher telle ou telle machine dans le cadre de la méca industrielle. Je ne vais pas vous retarder plus longtemps.
Ça vous dérange vraiment pas?
Si, ça me dérange. Ouais.
Nouvelle pause musicale sur Canal B. On va écouter un autre de nos camarades de classe, El Habib, de son nom de scène, IDMC, qui rappe en maoré. On écoute son titre, Amour de la Street.
Moi je suis posé au Jex avec mes potos. Diezi Waya Keti Monomoto. Tu me crois pas, tu peux demander à Arso. Que
porquet, t'es pas besoin d'hélico. Nega ou ça ou je joueris fagna mal. Les amouris wasili ya faut assumer chacal. Si ça avance, tu serais que les matos ou joue à gamme. En bas, si tu peux qu'on va te faire que du sale. Ouais, joue en bas, si tu peux qu'on va te faire le tour de la ville. Ouais, joue en bas, ouais, fagna ça, oh, va vous sale, toi, nami. Moi, j'suis posé dans ma rente, je vois la petite passer. Y'en a une, j'l'ai vu, moi-même, j'étais choqué. Idem, c'est fachona, on va pas lâcher. Wadjura, côté chicha, n'est pas déjà apprécié. Au début, quand j'écrivais, je me cassais la tête. Arna m'a dit, wassi, caraparo, la wa défaite. Risque gagner, renger, bouger, n'a j'tu remérité. Adawa, bola, rapouni, wa valide. C'est fort à tous mes rêves qui sont en prison. Libérer tous mes rêves qui sont en prison. Ils ont fait un crime, ça fait déjà 10 ans. Depuis Walla Watre qui peut résonner. Après Nisi Fania jusqu'à Damatom. Ni Wafania m'chamboui dans ma zone. Wa minute, wa wewe dans ma zone. 3, 5, 7, c'est ma zone.
Eh, bah oui, c'est la zone.
Moi j'suis posé dans ma rente, je vois la petite passer. Y'en a une, j'l'ai vu, moi-même j'étais choqué. Idem, c'est fachona, on va pas lâcher. Wadjura côté chicha, n'est pas déjà apprécié. Au début, quand j'écrivais, je me cassais la tête. Arna m'a dit, wassi, caraparo, la wa défaite. Risque gagner, renger, bouger, n'a j'tu remérité. Atawa, bola, rapouni, wa valide. Moi j'suis posé dans ma rente, je vois la petite passer. Y'en a une, j'l'ai vu, moi-même j'étais choqué. Idem, c'est fachona, on va pas lâcher. Wadjura côté chicha, n'est pas déjà apprécié. Au début quand j'écrivais je me cassais la tête. Arna m'a dit wassi caraparo la wa défaite. Risque gagner renger bouger n'a j'tu remérité. Atawa bola rapouni wa valide.
C'était El Habib ou IDMC, un autre jeune rappeur rennais talentueux, sur Canal B dans l'émission des terminales Bac Pro MU du lycée Jean Jaurès.
Radio Curieuse.
Bon, ici on est avec Tariq. Vas-y, je te laisse te présenter, Tariq.
Bonjour, Tariq, 18 ans, merci.
Alors là, nous avons Tariq qui est en train de manger un burger dans le train. Tariq, qu'en retires-tu de cette magnifique journée?
C'était une journée incroyablement incroyable. On a vu beaucoup de choses, on s'est rendu au musée, à l'Assemblée nationale. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Franchement, c'était une excellente sortie.
Aynora, qu'as-tu pensé de cette journée à Paris?
Franchement, c'était super bien et franchement, je suis super contente. Bah, triste que la journée soit finie.
Bonjour, je m'appelle Ben Abdou.
Ben, qu'as-tu pensé de cette magnifique journée que nous avons passée à Paris là?
Magnifique journée, je dirais. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les œuvres qu'on a vues au. Bah, bien sûr. Et l'assemblée et tout ça, c'était magique quoi.
Salut, je m'appelle Emmanuel. J'ai bien aimé la sortie qu'on a faite au Centre Pompidou et à l'Assemblée nationale. C'était très intéressant, j'ai pu découvrir de nouveaux endroits et voir, faire des découvertes, découvrir les passions des artistes, qu'est-ce que les artistes veulent montrer dans leurs œuvres et aussi comment se passe le vote des lois et autres dans l'Assemblée nationale.
Et qu'as-tu préféré dans ta journée?
Ce que j'ai préféré, c'était plutôt le Centre Pompidou, c'était véritablement intéressant.
Mesdames et messieurs, bonsoir.
Et aussi, ce que j'ai aimé, c'était aussi l'Assemblée nationale. C'est surtout que j'ai pas eu la chance de faire signer un autographe au député, que c'est un peu le seum.
Ok, très bien, merci Emmanuel.
Alors, bonjour, je me présente Carmen Hachim. Je suis actuellement au lycée Jean Jaurès. Aujourd'hui, c'était une journée exceptionnelle pour moi. Nous avons tout d'abord visité le musée Georges Pompidou. Auparavant, j'avais vu quelques vidéos là-dessus, mais rien de concret quoi. Et là, le voir dans la vraie vie, franchement. Ça, j'ai pas les mots carrément.
Est-ce que il y a une chose que t'as vraiment préférée et que tu regrettes de pas pouvoir continuer à faire de cette journée?
Moi, c'était pendant la séance à l'Assemblée nationale. Le débat avait l'air pertinent et franchement, j'aurais bien aimé rester plus longtemps là-bas. Voilà. Hop.
Donc une journée avec un timing serré. Alors pour les organisateurs, quand même, pas mal de stress. Mais voilà, on est content que la journée se soit bien passée. On a hâte qu'elle soit finie également. Et on espère vous avoir donné envie de revenir sur Paris.
On va passer à Madame Ghislain.
Elle est en train de manger. Moi, je suis soulagée de vous avoir tous dans le train pour le retour. Hein, je vous ramène tous vivants. Et on a passé une journée stressante, mais une superbe journée. Vous avez été tous parfaits, enthousiastes, et puis rigoureux, toujours à l'heure. On est ravis et puis on espère pouvoir que vous gardiez en tout cas tout ce projet, tous les projets qu'on a pu faire en mémoire.
Et vous Gaëlle, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?
Que tout ce qu'a dit Madame Ghislain est faux. C'était épuisant mais c'était cool, c'était plein de bonnes informations et j'espère que vous allez retenir tout ce qui a été dit.
Et est-ce que vous pouvez dire que le groupe de Madame Ghislain était le meilleur de la journée ?
Alors c'était le meilleur. J'ai été escortée dans le métro, c'était parfait, je me suis sentie en parfaite sécurité.
Bah, c'est ce qu'il fallait, alors c'est impeccable.
Et voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés.
Merci aux personnes qui nous ont accordé du temps pour répondre à nos questions.
Merci beaucoup à nos professeurs, Madame Ghislain
et Madame Pinel.
Leonardo,
Natim,
Théo,
Ryan,
Emmanuel,
John,
Salom,
Maxime,
Tarek,
Nolan,
Axel,
Julien,
Noam,
Ben Abdou,
Abdoulaye,
Aïnora,
EGM,
Matisse,
Valdik,
Badreddin,
Sami,
Nathanael,
Nathéo,
Riyad,
Mathéo,
et Labib.
Vous voulez à tout recommencer ?
Ah non, c'est bon. Mais là,
c'est mieux de recommencer.
Non, mais le truc, c'est que on n'a pas un quart d'heure à recommencer. Enfin, tu vois.
Donne.
Abdoulaye, tu ne manges pas le dernier mot. T'as vu, industriel, maintenant, c'était déjà parti. Tu gardes le micro. Industriel.
Je trouve Abdoulaye. Enfin, il a pas pris. Au début, t'étais bien, tu parlais, il manquait juste un peu de peps. Et là, t'avais le peps, mais tu parlais trop.
Ah.
Peps. Ouais, c'est pour ça, il a mangé l'industriel.
Ah ouais, c'est ça. La même tonalité est plus calme, mais c'est un big.
Tu sais que je garde tout ça. Généralement, je fais un making of et j'ai de l'âge et tout. Ouais, c'est quand qu'on mange. Non, t'as pas dit ça en plus. Ah bah oui, là, tout en. Ouais, tout en.
C'est pas interdit par la loi, ça, normalement. Enregistrer en permanence les gens.
Bah, t'es au courant, tu vois. Hey, je te prends pas en train, regarde, il y a. Ouais, ton rec, il est rouge, tu vois, on a prévu d'enregistrer le projet aujourd'hui.
Ok, ça me dérange pas.
Les ateliers radiophoniques de Canal B. Canal B, Radio Curieuse.
De pleines amphores.